Le programme du studio Kalangu continue. Il est 18h, votre journal en français avec Rukayat Abdrahman. Bonsoir. Voici les titres du journal. Sortie médiatique ce matin du gouverneur de la région de Niamey pour faire le bilan des actions menées ces deux derniers mois sur le banditisme grandissant dans différents quartiers de la capitale. Top départ ce matin pour la course au BTS d'État dans les centres de Niamey, Maradi, Tawa et Zander. Ils sont seulement 2951 candidats cette année, un nombre réduit de moitié à cause de nouvelles mesures introduites pour constituer les dossiers de candidature. Les explications du ministre en charge du secteur dans un instant. La partie magazine d'aujourd'hui parle de Feu El Hadj Taïa, de son vivant, artiste, musicien. Sa musique est encore source d'inspiration pour beaucoup de jeunes musiciens nigériens 30 ans après son décès. Le grand banditisme est devenu récurrent dans différents quartiers de Niamey. Plusieurs cas de vol aggravés de meurtres ont été enregistrés ces derniers jours, notamment dans la ceinture verte de la capitale. Ce matin, le gouverneur de la région de Niamey, Issaka Hassan Karanta, a dressé un bilan de la situation.
1116 motos ont été déclarées volées dans la ville de Niamey dans l'intervalle de ces deux derniers mois. Depuis le meurtre du jeune futur marié dont la moto a été emportée, nous avons retrouvé 16 motos volées et depuis lors, nous avons pris des dispositions qui nous ont permis d'arrêter 373 personnes. Nous avons retrouvé 70 motos et 7 véhicules. Nous avons arrêté 191 personnes. Parmi elles, il y a 139 garçons et 52 filles. Nous sommes toujours à la trousse de ces malfrats avec le concours de la police, de la garde et de la gendarmerie nationale. L'appel que je lance à l'endroit de la population, c'est de rester vigilant et éviter d'emprunter ce passage de raccourci de la ceinture verte. C'est un endroit dangereux le jour, à plus forte raison la nuit. Pour qu'il y ait la sécurité dans la ville, il va falloir que chaque citoyen apporte sa contribution, car ce n'est pas une question qui concerne uniquement les forces de défense et de sécurité. C'est une affaire qui nous concerne tous.
Propos recueillis par Soumane Amadou. Les rapes opérés contre paiement rançon attribués au groupe Boko Haram dans la région de Diffa ont fait réagir ce matin les jeunes du département de Bosso et les étudiants en vacances à Diffa. Cette jeunesse, par la voix de Malan Hassan Kachala, interpelle l'État et les autorités locales pour un retour à la quiétude.
Face à cette situation et ces constats, nous exigeons à l'endroit du gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire régner la sécurité au Niger en général et en particulier dans la région de Diffa. De finir avec cette guerre et de faire retourner les populations déplacées dans leurs localités respectives. De faire revenir les 38 enfants et femmes enlevés de Nglewa. À l'endroit des autorités locales, d'interpeller leurs supérieurs hiérarchiques afin qu'ils puissent régler définitivement des problèmes de sécurité, de sortir et de dénoncer publiquement cette situation. À l'endroit des ONG, de mener plus d'actions au bénéfice de la population, d'accorder une place de choix dans le recrutement du diplômé de la région. Par ailleurs, nous encourageons les FDS dans leur noble mission. Enfin, les ressortissants du département de Bosso et les membres et adhérents des structures de vacances des étudiants du département de Bosso apportent son soutien indéfectible aux familles des victimes dans l'événement.
Propos recueillis par Laon Boukar. Début ce matin des épreuves du brevet de technicien supérieur BTS d'État au Niger. Au total, 2951 candidats, un nombre à la baisse, est reparti dans les centres de Niamey, Maradi, Tawa et Zander. Les innovations apportées cette année expliquent la réduction du nombre de candidats selon le ministre nigérien de l'enseignement supérieur depuis Maradi. Yahouza Sadissou au micro de Mohamed Mama.
Cette année, nous avons tout simplement décidé d'interdire tous ceux qui n'ont pas le bac de faire le BTS. Le gouvernement accorde une place importante dans la qualité de notre enseignement à tous les niveaux. Ce qui se faisait, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est qu'on permettait aux élèves de s'inscrire, de composer sous réserve de l'obtention du baccalauréat. Il se trouvait que beaucoup admettent au BTS. Ils vont jusqu'à la licence. Ils ont la licence, mais ils n'ont pas le bac. Ce qui est une grosse anomalie dans notre système d'enseignement. Et nous avons donc cette année fait appliquer les textes. Et c'est ce qui fait que le nombre de candidats, cette année, c'est à peu près 3000. Ça fait exactement 2951. C'est un peu plus de 55% par rapport au nombre de l'année dernière qui avoisinait les 6000.
Annonce tardive, communication chaotique, silence des hauts responsables. Le gouvernement algérien était dimanche sous le feu des critiques de médias et des réseaux sociaux concernant sa gestion de l'épidémie de choléra qui a fait 2 morts depuis début août. Selon une dépêche de l'AFP, plusieurs journaux notent qu'il aura fallu près de 2 semaines aux autorités pour annoncer la résurgence du choléra en Algérie, où aucun cas n'était signalé depuis 1996 et dont la dernière épidémie d'ampleur remonte à 1986. Selon le dernier bilan officiel dimanche, le diagnostic du choléra a été confirmé chez 49 malades, dont 2 sont décédés. Le village de Dolé, dans la commune de Tounouga, département de Gaya, a connu des inondations après de fortes pluies de la semaine dernière. À cet effet, le ministère de l'Action humanitaire a dépêché une mission conduite par son secrétaire général Boubacar Sidikou au micro de Daoud Hassan.
La situation est désolante. Tout le village est inondé. Ça, on vient de voir de visu. Le village est envahi par des eaux de Coloma. Il y a eu beaucoup de sinistrés. 211 ménages sinistrés et ça ne fait qu'augmenter. Je pense que la population a besoin vraiment d'une assistance de manière urgente. Et la première des choses, c'est les abris. Il y a eu beaucoup de maisons qui se sont effondrées. La situation, la DGPC, le comité sous-régional de gestion des crises et de catastrophes est là-dessus maintenant. On attend les résultats pour pouvoir vraiment voir avec le gouvernement et les partenaires qu'est-ce qu'il faut apporter comme assistance rapidement. Mais d'urgence, c'est les abris et les NFA qui sont prioritaires pour le moment. Et du point de vue santé, parce que là, c'est ici même est inondé, vous voyez, c'est ce qu'on a vu. Donc c'est une situation vraiment très critique du point de vue sanitaire et du point de vue socio-économique.
Le département de Tanout, dans l'extrême nord de la région de Zander, comprend une zone agricole au sud et une zone pastorale au nord qui couvre à elle seule 43% de la superficie du département. L'essentiel de l'alimentation pour bétail reste tributaire de la pluviométrie. Le reportage de notre correspondant Boubacar Mamadou Yaro nous présente la situation pastorale actuelle du dit département.
Zone de convergence des éleveurs venant de différentes contrées de ce pays, le département de Tanout dépasse sa vocation agro-pastorale et les points de chute des pasteurs avec leurs troupeaux. Cette année, l'abondance de pluie a resté à favoriser le remplissage des mares et la disponibilité de plusieurs espèces végétales. Dr Ilyas Amadou, directeur départemental d'élevage.
Le tapis herbacé au niveau du département et au stade de la montaison est accessible même pour le gros ruminant. Les différents points d'eau sont pleins, dont certains sont même débordés, facilitant ainsi l'abreuvement des animaux.
Ainsi, l'état d'un bon point de sortie s'est nettement amélioré à la faveur du pouvoir d'achat des éleveurs. Dr Ilyasu Amadou.
Le trame de l'échange, il est en légère faveur de l'éleveur, dû à une hausse des prix des petits ruminants sur le marché de Tanout et Bagimbirji. Le bouc de prix d'un an coûte 7500 sur le marché de Tanout et le sac de 1000 de 5 kg à 23000 castan, donc le trame de l'échange est le 1,1.
Le retour des éleveurs de cette zone a fait naître de l'espoir parmi les acteurs qui sont liés à la chaîne de transaction du commerce de bétail. Mala Mama, un acheteur venu de la ville d'Agadez, et Mustapha, un vendeur.
On en trouve à 45 000, 42 000. 60 000, 80 000, à 170 000 et 180 000. Je viens d'Agadez et je compte aller vendre et gagner du bénéfice, Inch'Allah.
La zone pastorale de ce département ne remplit pas des éleveurs, en espérant que la fréquence de la pluviométrie se maintienne dans le temps et dans l'espace. De Tanout, Boubacar Moumadiaro pour le studio Kalango.
Les pèlerins nigériens transportés par les vols réguliers commencent à rentrer après la fin des rites du Hajj 2018 en Arabie Saoudite. Le retour des pèlerins des vols charter commence la semaine prochaine, nous apprend le chargé de communication du Haut Commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho. Toutefois, Mahamadou Hafizou se réserve de donner un agenda précis.
s'est bien passé globalement. Maintenant, s'agissant des vols de retour, les vols charter doivent commencer en principe le 8 septembre 2018. Les vols réguliers déjà ont commencé depuis le 24. Ils viennent comme ils sont partis, un petit nombre, dans des compagnies différentes. Par exemple, aujourd'hui, lundi 27, dans le vol éthiopien qui va arriver aux environs de midi, il y a un nombre de pèlerins qui vont venir.
Propos recueillis par Rahila Toussoumana. La société nigérienne de carbonisation du charbon était confrontée certains jours à une forte demande de minéral, particulièrement à la veille de la Tabaski, un produit indisponible ou au moment où l'on a le plus grand besoin. Suivant à ce sujet, le directeur de la SNCC, Zamnaou Tahirou, au micro de Moussa Hassan.
Au troisième jour déjà des ventes, on était complètement dépassé et notre stock était pratiquement épuisé. Contrairement à l'année dernière où nous avions à peu près le même niveau de stock, l'état de la route a été une vraie contrainte pour nous parce que nos véhicules étaient bloqués au niveau des courries. Compte tenu du fait que nous avons un magasin qui est limité, il ne peut contenir au maximum que 3000 sacs. Déjà, ce que nous préconisons, c'est de faire démarrer les ventes à 2 mois de la Tabaski en faisant un communiqué pour dire aux intéressés de venir rapidement payer. Quand le magasin est vidé, au bout par exemple de 2 semaines, on a la possibilité de réapprovisionner et faire une seconde, troisième, quatrième vente avant même que la Tabaski ne vienne. C'est un charbon qui se conserve assez longtemps. Par exemple, ceux qui ont fait la grillade cette année avec le charbon minéral, s'ils ont le lendemain fait de la récupération, eh bien ils peuvent le garder dans un coin de leur maison jusqu'à la prochaine Tabaski.
Et puis la partie magazine de cette édition, jeudi 23 août, cela fait 30 ans que disparaissait l'artiste musicien nigérien Elhaj Maimanga Taya, plus connu sous le nom de Delhaj Taya. 3 décennies après, sa musique est très écoutée et le défunt inspire les jeunes musiciens nigériens, nous apprend l'artiste musicien et peintre Boubacar Garba, dit Tela, qui l'a côtoyé.
Il m'a toujours encouragé à apprendre l'instrument que j'apprenais, qui était la guitare. Malgré tous ses diplômes, ça ne lui a pas empêché de se donner à la musique. À l'âge de Taya, il commence ses premiers pas à l'école normale de Zandra avec Maman Garba et Rabou Mato. Il joua successivement à l'orchestre amical, les ambassadeurs du Sahel en 1974 et l'international de la capitale en 1982. Donc l'organisation de la première édition Prix Ngourmou en février 1987 a favorisé l'éclosion de son premier tube de la catégorie des orchestres avec Matamala. Surtout avec cette œuvre-là, puisque en ce moment-là, Taya était trop en avance que les autres orchestres, sur le plan matériel et même sur le plan musique moderne nigérienne. Parce que tous les interprètes, c'est-à-dire les guitaristes qui jouent, la majorité sont des étrangers. Donc ce qui fait que la dominance de la musique dont on joue à l'époque était de la musique étrangère qu'on interprétait. Donc avec Taya, il s'est imposé sur le patrimoine national traditionnel qui prenait pour moderniser. Je ne sais pas si vous connaissez Idina Dado. La plupart de ses chansons étaient basées sur les trucs de Idina Dado. Sous Takita, Allah Diara, il y a presque 3 ou 4 chansons de Idina Dado qu'il a interprétées.
30 ans après sa disparition, qu'est-ce qui reste de ses œuvres?
Taya, c'est lui qui est parti, son âme est là. Mais Taya, en réalité, par rapport aux œuvres dont tu en as parlé, les œuvres reste encore immortel. On va toujours faire appel à ces œuvres-là. Il y a pour la recherche, il y en a pour les soutenances de mémoire et il y a aussi pour retravailler la musique qu'on se refait.
Est-ce que sa descendance continue à vivre de ces œuvres-là?
Tout ce dont je peux vous dire, c'est que quand les miettes de droit tombent, les ayants droit trouveront leur part.
Parmi ces enfants, est-ce qu'il y a quelques-uns qui ont emboîté le pas de leur défunt papa?
Je dirais non. En réalité, personne n'a suivi ses traces dans sa famille.
Vous avez cherché à savoir pourquoi?
Ce dont je sais, si même parmi eux, quelqu'un emboîte ses pas, il aura le soutien de sa famille parce que Taya même a été beaucoup soutenu par sa famille, en l'occurrence surtout casalement. Il était ministre. Donc...
C'est la fin de ce journal. Merci et au revoir.